Vers 3h30, les apprêts du départ, le brossage des chapeaux, le changement des habits s'opéra simultanément dans tous les bureaux du ministère. Cette chère demi-heure, employée à de petits soins domestiques, abrège d'autant la séance. En ce moment, les pièces trop chaudes s'attiédissent, l'odeur particulière au bureau s'évapore, le silence revient. À 4h, il ne reste plus que les véritables employés, ceux qui prennent leur état au sérieux. Un ministre peut connaître les travailleurs de son ministère en faisant une tournée à 4h précises, espionnage qu'aucun de ces graves personnages ne se permet. À 7h, dans les cours, quelques chefs s'abordèrent pour se communiquer leurs idées sur l'événement de la journée. Généralement, en s'en allant, 2 à 2, 3 à 3, on concluait en faveur de Rabourdin. Mais les vieux routiers, comme M. Clergeau, branlaient la tête en disant « Aben sua sideralites ». Saillard et Baudoyer furent poliment évités car personne ne savait quelles paroles leur dire au sujet de la mort de la billardère, et chacun comprenait que Baudoyer pouvait désirer la place, quoiqu'elle ne lui fût pas due. Quand le gendre et le beau-père se trouvèrent à une certaine distance du ministère, Saillard rompit le silence en disant « Cela va mal pour toi, mon pauvre Baudoyer ». « Je ne comprends pas, répondit le chef, à quoi songe Élisabeth qui a employé Godard à avoir dardard un passeport pour Falex. Godard m'a dit qu'elle a loué une chaise de poste d'après l'avis de mon oncle Mitral, et à 7h, Falex est en route pour son pays. « Sans doute une affaire de notre commerce, » dit Saillard. Notre commerce le plus pressé dans ce moment était de songer à la place de M. Labillardère. Il se trouvait alors à la hauteur du palais royal dans la rue Saint-Honoré. Dutocq les salua et les aborda. « Monsieur, dit-il à Baudoyer, si je puis vous être utile en quelque chose dans les circonstances où vous vous trouvez, disposez de moi, car je ne vous suis pas moins dévoué que M. Godard. » « Une semblable démarche est au moins consolante, dit Baudoyer. On a l'estime des honnêtes gens. Si vous daignez employer votre influence pour me placer auprès de vous comme sous-chef en prenant Bissieu pour votre chef, vous feriez la fortune de deux hommes capables de tout pour votre élévation. » « Vous raillez-vous de nous, monsieur ?» dit Saillard en faisant de gros yeux bêtes. « Loin de moi cette pensée, dit Dutocq. Je viens de l'imprimerie du journal y porter de la part de monsieur le secrétaire général le mot sur monsieur de la Billardère. L'article que j'y ai lu m'a donné la plus haute estime pour vos talents. Quand il faudra achever le Rabourdin, je puis donner un fier coup de hache. Daignez vous en souvenir. » Dutocq disparut. « Je vais être pendu si je comprends un mot, dit le caissier en regardant Baudoyer dont les petits yeux annonçaient une stupéfaction singulière. Il faudra faire acheter le journal ce soir. » Quand Saillard et son gendre entrèrent dans le salon du rez-de-chaussée, ils y trouvèrent un grand feu, Madame Saillard, Élisabeth, M. Gaudron et le curé de Saint-Paul. Le curé se tourna vers M. Baudoyer, à qui sa femme fit un signe d'intelligence peu compris. « Monsieur, dit le curé, je n'ai pas voulu tarder à venir vous remercier du magnifique cadeau par lequel vous avez embelli ma pauvre église. Je n'osais pas m'endetter pour acheter ce bel ostentoire digne d'une cathédrale. Vous qui êtes un de nos plus pieux et assidus paroissiens, vous deviez plus que tout autre avoir été frappé du dénuement de notre maître-autel. Je vais voir dans quelques moments monseigneur le coadjuteur, et il vous témoignera bientôt sa satisfaction. « Je n'ai rien fait encore, dit Baudoyer. » « Monsieur le curé, répondit sa femme en lui coupant la parole, je puis trahir son secret tout entier. Monsieur Baudoyer compte achever son œuvre en vous donnant un dé pour la prochaine fête Dieu. Mais cette acquisition tient un peu à l'état de nos finances, et nos finances tiennent à notre avancement. « Dieu récompense ceux qui l'honorent, dit Monsieur Gaudron en se retirant avec le curé. « Pourquoi, dit Saillard à Monsieur Gaudron et au curé, ne nous faites-vous pas l'honneur de manger avec nous la fortune du pot ?» « Restez, mon cher vicaire, dit le curé à Gaudron. Vous me savez invité par monsieur le curé de Saint-Roch qui, demain, enterre monsieur de la Billardère. « Monsieur le curé de Saint-Roch peut-il dire un mot pour nous ?» demanda Baudoyer, que sa femme tira violemment par le pan de sa redingote. « Mais tais-toi donc, Baudoyer, lui dit-elle en l'attirant dans un coin pour lui souffler à l'oreille. Tu as donné à la paroisse un ostentoire de 5 000 francs. Je t'expliquerai tout. » L'avare Baudoyer fit une grimace horrible et resta songeur pendant tout le dîner. « Pourquoi donc t'es-tu tant remué à propos du passeport de Falex ? De quoi te mêles-tu » lui demanda-t-il enfin. « Il me semble que les affaires de Falex sont un peu les nôtres, » répondit sèchement Élisabeth en jetant un regard à son mari pour lui montrer M. Gaudron devant lequel il devait se taire. « Certainement, » dit le père Saillard en pensant à sa commandite. Vous êtes arrivé, j'espère, à temps au bureau du journal, demanda Élisabeth à monsieur Gaudron en lui servant le potage.
Oui, chère madame, répondit le vicaire. Aussitôt que le directeur du journal a vu le mot du secrétaire de la grande aumônerie, il n'a plus fait la moindre difficulté. La petite note a été mise par ses soins à la place la plus convenable. Je n'y aurais jamais songé, mais ce jeune homme du journal a l'intelligence éveillée. Les défenseurs de la religion pourront combattre l'impiété sans désavantage, il y a beaucoup de talent dans les journaux royalistes. J'ai tout lieu de penser que le succès couronnera vos espérances. Mais songez, mon cher Baudoyer, à protéger M. Colville. Il est l'objet de l'attention de son éminence. On m'a recommandé de vous parler de lui.
Si je suis chef de division, j'en ferai l'un de mes chefs de bureau si l'on veut, dit Baudoyer. Le mot de l'énigme arriva quand le dîner fut fini. La feuille ministérielle achetée par le portier contenait au fait Paris les deux articles suivants, dits entrefilés. Monsieur le baron de la Billardère est mort ce matin après une longue et douloureuse maladie. Le roi perd un serviteur dévoué, l'église un de ses plus pieux enfants. La fin de monsieur de la Billardère a dignement couronné sa belle vie, consacrée tout entière dans des temps mauvais, à des missions périlleuses et vouée encore naguère aux fonctions les plus difficiles. Monsieur de la Billardère fut grand prévôt dans un département où son caractère triompha des obstacles que la rébellion y multipliait. Il avait accepté une direction ardue où ses lumières ne furent pas moins utiles que l'aménité française de ses manières pour concilier les affaires graves qui s'y sont traitées. Nulles récompenses n'ont été mieux méritées que celles par lesquelles le roi Louis XVIII et sa majesté se sont plu à couronner une fidélité qui n'avait pas chancelé sous l'usurpateur. Cette vieille famille revivra dans un rejeton héritier des talents et du dévouement de l'homme excellent dont la perte afflige tant d'amis. Déjà, sa majesté a fait savoir, par un mot gracieux, qu'elle comptait M. Benjamin de la Billardère au nombre de ces gentilshommes ordinaires de la chambre. Les nombreux amis qui n'auraient pas reçu de billets de faire-part, ou chez lesquels ces billets n'arriveraient pas à temps, sont prévenus que les obsèques se feront demain à 4 heures à l'église de Saint-Roch. Le discours sera prononcé par M. l'abbé Fontanon. M. Isidore Baudoyer, représentant d'une des plus anciennes familles de la bourgeoisie parisienne et chef de bureau dans la division La Billardère, vient de rappeler les vieilles traditions de piété qui distinguaient ces grandes familles, si jalouses de la splendeur de la religion et si amies de ses monuments. L'église de Saint-Paul manquait d'un ostentoire en rapport avec la magnificence de cette basilique due à la Compagnie de Jésus. Ni la fabrique ni le curé n'étaient assez riches pour en orner l'autel. M. Baudoyer a fait don à cette paroisse de l'ostentoire que plusieurs personnes ont admiré chez M. Coyer, orfèvre du roi. Grâce à cet homme pieux qui n'a pas reculé devant l'énormité du prix, l'église de Saint-Paul possède aujourd'hui ce chef-d'œuvre d'orfèvrerie dont les dessins sont dus à M. de Sommervieux. Nous aimons à publier un fait qui prouve combien sont vaines les déclamations du libéralisme sur l'esprit de la bourgeoisie parisienne. De tout temps, la haute bourgeoisie fut royaliste, elle le prouvera toujours dans l'occasion. Le prix était de 5 000 francs, dit l'abbé Gaudron, mais en faveur de l'argent comptant, l'orfèvre de la cour a modéré ses prétentions. Représentant d'une des plus anciennes familles de la bourgeoisie parisienne, disait Saillard, c'est imprimé et dans le journal officiel encore. Cher monsieur Gaudron, aidez donc mon père à composer une phrase qu'il pourrait glisser dans l'oreille de madame la comtesse en lui portant le traitement du mois, une phrase qui dise bien tout. Je vais vous laisser, je dois sortir avec mon oncle Mitral. Croyez-vous qu'il m'a été impossible de trouver mon oncle Bidot? Et dans quel chenil demeure-t-il? Enfin, M. Mitral, qui connaît ses allures, dit qu'il a fini ses affaires entre 8 heures et midi, que, passé 7 heures, on ne peut le trouver qu'à un café nommé Café Tennis, un singulier nom. Y rend-on la justice? Dit en riant l'abbé Gaudron. Comment va-t-il dans un café situé au coin de la rue Dauphine et du quai des Augustins? Mais on dit qu'il y joue tous les soirs au domino avec son ami M. Gobseck. Je ne veux pas aller là toute seule, mon oncle me conduit et me ramène. » En ce moment, Mitral montra sa figure jaune plaquée de sa perruque qui semblait faite en chien d'homme, et fit signe à sa nièce de venir afin de ne pas dissiper un temps payé 2 francs l'heure. Madame Baudoyer sortit donc sans rien expliquer à son père ni à son mari. « Le ciel, dit M. Gaudron à Baudoyer quand Élisabeth fut partie, vous a donné dans cette femme un trésor de prudence et de vertu, un modèle de sagesse, une chrétienne en qui se trouve un entendement divin. La religion seule forme des caractères si complets.
Demain, je dirai la messe pour le succès de la bonne cause. Il faut, dans l'intérêt de la monarchie et de la religion, que vous soyez nommé. Monsieur Rabourdin est un libéral, abonné au journal des débats, journal funeste qui fait la guerre à monsieur le comte de Villèle, pour servir les intérêts froissés de monsieur de Chateaubriand. Son éminence lira ce soir le journal, quand ce ne serait qu'à cause de son pauvre ami monsieur de la Billardère, et monseigneur le coadjuteur lui parlera de vous et de Rabourdin. Je connais monsieur le curé. Quand on pense à sa chère église, il ne vous oublie pas dans son prône. Or, il a l'honneur en ce moment de dîner avec le coadjuteur chez monsieur le curé de Saint-Roch. » Ces paroles commençaient à faire comprendre à Saillard et à Baudoyer qu'Élisabeth n'était pas restée oisive depuis le moment où Godard l'avait avertie. « Est-elle futeste, Élisabeth ? » s'écria Saillard en appréciant avec plus de justesse que ne le faisait l'abbé le rapide chemin de taupe tracé par sa fille. Elle a envoyé Godard savoir à la porte de monsieur Rabourdin quel journal il recevait, dit Gaudron. Et je l'ai dit au secrétaire de son éminence, car nous sommes dans un moment où l'Église et le trône doivent bien connaître quels sont leurs amis, quels sont leurs ennemis. « Voilà 5 jours que je cherche une phrase à dire à la femme de son Excellence, » dit Saillard. « Tout Paris lit cela !» s'écria Baudoyer, dont les yeux étaient attachés sur le journal. « Votre éloge ne coûte 4 800 francs, mon fiston !» fit madame Saillard. « Vous avez embelli la maison de Dieu !» répondit l'abbé Gaudron. « Nous pouvions faire notre salut sans cela, » reprit-elle. « Mais si Baudoyer a la place, elle vaut 8 000 francs de plus, le sacrifice ne sera pas grand. »« Et s'il ne l'avait pas ?»« Hein, ma mère, » dit-elle en regardant son mari, « quelle saignée !»« Eh bien, » dit Saillard enthousiasmé, « nous regagnerions cela chez Falex, qui va maintenant étendre ses affaires en se servant de son frère qu'il a mis agent de change exprès. » Élisabeth aurait bien dû nous dire pourquoi Falex s'est envolé. « Mais cherchons la phrase. Voilà ce que j'ai déjà trouvé. » « Madame, si vous vouliez dire 2 mots à son Excellence ?»« Vouliez, » dit Gaudron, « daignez pour parler plus respectueusement. D'ailleurs, il faut savoir avant tout si Madame la Dauphine vous accorde sa protection, car alors vous pourriez lui insinuer l'idée de coopérer au désir de son Altesse royale. »« Il faudrait aussi désigner la place vacante, » dit Baudoyer. « Madame la Comtesse, » reprit Saillard en se levant et regardant sa femme avec un sourire agréable, « Jésus, Saillard, es-tu drôle comme ça, mais mon fils, prends donc garde, tu la feras rire, cette femme. »« Madame la Comtesse, suis-je mieux ? » dit-il en regardant sa femme. « Oui, mon poulet. La place de feu, le digne monsieur Labillardère, est vacante, mon gendre monsieur Baudoyer, homme de talent et de haute piété, souffla Gaudron. « Écris, Baudoyer, cria le père Saillard, écris la phrase. » Baudoyer prit naïvement une plume et écrivit sans rougir son propre éloge, absolument comme eussent fait Nathan ou Canalis en rendant compte d'un de leurs livres. « Madame la Comtesse, vois-tu ma mère ?» dit Saillard à sa femme. « Je suppose que tu es la femme du ministre. »« Me prends-tu pour une bête ? Je le devine bien, » répondit-elle. « La place de feu, le digne monsieur de la Billardère, est vacante, mon gendre, monsieur Baudoyer, homme d'un talent consommé et de haute piété. » Après avoir regardé M. Gaudron, qui réfléchissait, il ajouta « Serait bien heureux s'il l'avait. »« Ah, ce n'est pas mal, c'est bref et ça dit tout. »« Mais attends donc, Saillard, tu vois bien que M. l'abbé rumine, » lui dit sa femme, « ne le trouble donc pas. »« Serait bien heureux si vous daignez vous intéresser à lui, » reprit Gaudron, « et en disant quelques mots à son Excellence, vous seriez particulièrement agréable à Madame la Dauphine, par laquelle il a le bonheur d'être protégé. » « Ah, monsieur Gaudron, cette phrase vaut l'ostentoire. Je regrette moins les 4 800. D'ailleurs, dis donc, Baudoyer, tu les paieras, mon garçon. As-tu écrit ?»« Je te ferai répéter cela, ma mère, » dit madame Saillard, « et tu me la réciteras matin et soir. » »« Oui, elle est bien troussée, cette phrase-là. Êtes-vous heureux d'être si savant, monsieur Gaudron ? Voilà ce que c'est que d'étudier dans les séminaires. On apprend à parler à Dieu et à ses saints. » »« Il est aussi bon que savant, » dit Baudoyer en serrant les mains au prêtre. « Est-ce vous qui avez rédigé l'article ? » demanda-t-il en montrant le journal. « Non, » répondit Gaudron, « cette rédaction est du secrétaire de son éminence, un jeune abbé qui m'a de grandes obligations et qui s'intéresse à M. Colville. Autrefois, j'ai payé sa pension au séminaire. Un bienfait a toujours sa récompense, » dit Baudoyer.
Pendant que ces 4 personnes s'attablaient pour faire leur boston, Élisabeth et son oncle Mitral atteignaient le café Thémis après s'être entretenus en chemin de l'affaire que le tact d'Élisabeth lui avait indiqué comme le plus puissant levier pour forcer la main au ministre. L'oncle Mitral, l'ancien huissier, fort en chicane en expédients et précautions judiciaires, regarda l'honneur de sa famille comme intéressé au triomphe de son neveu.
Son avarice lui faisait sonder le coffre-fort de Giguenet et il savait que cette succession revenait à son neveu Baudoyer. Il lui voulait donc une position en harmonie avec la fortune des Saillat et de Giguenet, qui toutes échéraient à la petite Baudoyer. À quoi ne devait pas prétendre une fille dont la fortune irait à plus de 100 000 livres de rente? Il avait adopté les idées de sa nièce et les avait entendues. Aussi avait-il accéléré le départ de Falex en lui expliquant comment on allait vite en poste. Puis il avait réfléchi pendant son dîner sur la courbure qu'il convenait d'imprimer au ressort inventé par Élisabeth. En arrivant au café Thémis, il dit à sa nièce que lui seul pouvait arranger l'affaire avec Giguenet, et il la fit rester dans le fiacre afin qu'elle n'intervînt qu'en temps et lieu. À travers les vitres, Élisabeth aperçut les deux figures de Gobseck et de son oncle Bidault qui se détachaient sur le fond jaune vif des boiseries de ce vieux café, comme deux têtes de camée froides et impassibles dans l'attitude que le graveur leur a donnée. Ces deux avares parisiens étaient entourés de vieux visages où le 30% d'escompte semblait écrit dans les rides circulaires qui partant du nez retroussaient des pommettes glacées. Ses physionomies s'animèrent à l'aspect de Mitral et les yeux brillèrent d'une curiosité tigresque. « Eh, c'est le papa Mitral !» s'écria Chaboisseau. Ce petit vieillard faisait l'escompte de la librairie. « Oui, ma foi, » répondit un marchand de papier nommé Métivier. « Ah, c'est un vieux singe qui se connaît en grimace !»« Et vous êtes un vieux corbeau qui vous connaissez en cadavre !» répondit Mitral. « Juste !» dit le sévère Gobseck. « Que venez-vous faire ici, mon fils ? Venez-vous saisir notre ami Métivier ?» lui demanda Giguenet en lui montrant le marchand de papier qui avait une trogne de vieux portier. « Votre petite nièce Élisabeth est là, papa Giguenet, » lui dit Mitral à l'oreille. « Quoi, des malheurs ?» dit Bidault. Le vieillard fronça les sourcils et prit un air tendre comme celui du bourreau quand il s'apprête à officier. Malgré sa vertu romaine, il dut être ému, car son nez si rouge perdit un peu de sa couleur. « Eh bien, ce serait des malheurs. N'aideriez-vous pas la fille de Saillard, une petite qui vous tricote des bas depuis 30 ans ?» s'écria Mitral. « S'il y avait des garanties, je ne dis pas, » répondit Giguenet. « Il y a du Falex là-dedans. Votre Falex établit son frère agent de change, il fait autant d'affaires que les Brézac. Avec quoi ? Avec son intelligence, n'est-ce pas ? Enfin, Saillard n'est pas un enfant. »« Il connaît la valeur de l'argent, » dit Chaboisseau. Ce mot, dit entre ces vieillards, eût fait frémir un artiste, car tous hochèrent la tête. « D'ailleurs, ça ne me regarde pas, moi, les malheurs de mes proches, » reprit Bidault Giguenet. « J'ai pour principe de me laisser aller ni avec mes amis ni avec mes parents, car on peut périr par les endroits faibles. Adressez-vous à Gobseck, il est doux. » Les escompteurs applaudirent à cette doctrine par un mouvement de leur tête métallique, et qui les eût vus aurait pu entendre les cris de machines mal graissées. « Allons, Giguenet, un peu de tendresse, » dit Chaboisseau. « On vous a tricoté des bas pendant 30 ans. »« Ah, ça vaut quelque chose, » dit Gobseck. « Vous êtes entre vous, on peut parler, » dit Mitral, après avoir examiné les êtres autour de lui. « Je suis amené par une bonne affaire. « Pourquoi venez-vous donc à nous si elle est bonne ?» dit aigrement Giguenet en interrompant Mitral. Un gars qui était gentilhomme de la chambre, un vieux chouan, son nom, la billardère, est mort. « Vrai, » dit Gobseck. « Et le neveu donne des ostentoires aux églises, » dit Giguenet. « Il n'est pas si bête que de les donner, il les vend, papa, » reprit Mitral avec orgueil. « Il s'agit d'avoir la place de monsieur de la Billardère, et pour y arriver, il est nécessaire de saisir. »« Saisir toujours huissier, » dit Métivier en frappant amicalement sur l'épaule de Mitral. « J'aime cela, moi. »« De saisir le sieur Chardin des Lupeaux entre nos griffes, » reprit Mitral. Or, Élisabeth en a trouvé le moyen, et il est... « Élisabeth, » s'écria Giguenet en interrompant encore, « chère petite créature, elle tient de son grand-père, de mon pauvre frère. Bidault n'avait pas son pareil, ah, si vous l'aviez vu aux ventes de vieux meubles. Quel tact, quel fil. Que veut-elle ?»« Tiens, tiens, » dit Mitral, « vous retrouvez bien vite vos entrailles, papa Giguenet. Ce phénomène doit avoir ses causes. »« Enfant, » dit Gobseck à Giguenet, « toujours trop vif. »« Allons, Gobseck et Giguenet, mes maîtres, vous avez besoin des Lupeaux. » Vous vous souvenez de l'avoir plumé, vous avez peur qu'il ne redemande un peu de son duvet, dit Mitral. Peut-on lui dire l'affaire ? Demanda Gobseck à Giguenet. Mitral est des nôtres, il ne voudrait pas faire un mauvais trait à ses anciennes pratiques, répondit Giguenet. Eh bien, Mitral, nous venons entre nous trois, dit-il à l'oreille de l'ancien huissier, d'acheter des créances qui sont en liquidation. Que pouvez-vous sacrifier ? Demanda Mitral. Rien, dit Gobseck. « On ne nous sait pas là, » dit Giguenet, « Samanon nous sert de paravent. »« Écoutez-moi, Giguenet, » dit Mitral, « il fait froid et votre petite nièce attend. Vous me comprendrez en trois mots. Il faut envoyer entre vous deux, sans intérêt, 250 000 francs à Falex qui maintenant brûle la route à 30 lieues de Paris avec un courrier en avant. Possible, dit Gobseck. Où va-t-il? S'écria Gigonnet. Mais il se rend à la magnifique terre des Lupeaux, reprit Mitral. Il connaît le pays, il va acheter autour de la bicoque du secrétaire général pour les dits 250 000 francs d'excellentes terres qui vaudront toujours bien leur prix. On a 9 jours pour l'enregistrement des actes notariés, ne perdez pas ceci de vue. Avec cette petite augmentation, la terre des Lupeaux paiera 1 000 francs d'impôts, ergo des Lupeaux devient électeur du grand collège, éligible, comte et tout ce qu'il voudra. Vous savez quel est le député qui s'est coulé? Les deux avares firent un signe affirmatif. Des Lupeaux se couperait une jambe pour être député, reprit Mitral. Mais s'il veut avoir en son nom les contrats que nous lui montrerons, en les hypothéquant, bien entendu, de notre prêt avec subrogation dans les droits des vendeurs, ah, vous y êtes, il nous faut d'abord la place pour baudoyer. Après, nous vous repassons des Lupeaux. Falex reste au pays et prépare la matière électorale, ainsi vous couchez des Lupeaux en joue par Falex pendant tout le temps de l'élection, une élection d'arrondissement où les amis de Falex font la majorité. Y a-t-il du Falex là-dedans, papa Gigonnet? Il y a aussi du Mitral, reprit Métivier. C'est bien joué. C'est fait, dit Gigonnet. Pas vrai, Gobseck? Falex nous signera des contre-valeurs et mettra l'hypothèque en son nom. Nous irons voir des Lupeaux en temps utile. Et nous, dit Gobseck, nous sommes volés. Ah, papa, dit Mitral, je voudrais bien connaître le voleur. Eh, nous ne pouvons être volés que par nous-mêmes, répondit Gigonnet. Nous avons cru bien faire en achetant les créances sur des Lupeaux à 60% de remise. Vous les hypothéquerez sur sa terre et vous le tiendrez encore par les intérêts, répondit Mitral. Possible, dit Gobseck. Après avoir échangé un fin regard avec Gobseck, Bidault, dit Gigonnet, vint à la porte du café. Élisabeth, va ton train, ma fille, dit-il à sa nièce. Nous tenons ton homme, mais ne néglige pas les accessoires. C'est bien commencé, rusé. Achève, tu as l'estime de ton oncle. Et il lui frappa gaiement dans la main. Mais, dit Mitral, Métivier et Chaboisseau peuvent nous donner un coup de main en allant ce soir à la boutique de quelque journal de l'opposition y faire saisir la balle au bon et rempoigner l'article ministériel. Va toute seule, ma petite, je ne veux pas lâcher ces deux cormorans. Et il rentra dans le café. Demain, les fonds partiront à leur destination par un mot au receveur général. Nous trouverons chez nos amis pour 100 000 écus de son papier, dit Gigonnet à Mitral quand l'huissier vint parler à l'escompteur. Le lendemain, les nombreux abonnés d'un journal libéral lurent dans les premiers paris un article entrefilé, inséré d'autorité par Chaboisseau et Métivier, actionnaires dans deux journaux, escompteurs de la librairie, de l'imprimerie, de la papeterie, et à qui nul rédacteur ne pouvait rien refuser. Voici l'article. Hier, un journal ministériel indiquait évidemment comme successeur du baron de la Billardière, M. Baudoyer, un des citoyens les plus recommandables d'un quartier populeux où sa bienfaisance n'est pas moins connue que la piété sur laquelle appuie tant la feuille ministérielle. Elle aurait pu parler de ses talents. Mais a-t-elle songé qu'en vantant l'antiquité bourgeoise de M. Baudoyer, qui, certes, est une noblesse comme une autre, elle indiquait la cause de l'exclusion vraisemblable de son candidat? Perfidie gratuite, la bonne dame caresse celui qu'elle tue suivant son habitude. Nommer M. Baudoyer, ce serait rendre hommage aux vertus, aux talents des classes moyennes, dont nous serons toujours les avocats, quoique nous voyons notre cause souvent perdue. Cette nomination serait un acte de justice et de bonne politique, le ministère ne se le permettra pas. La feuille religieuse a 7 fois plus d'esprit que ses patrons, on la grondera. Le lendemain matin, vendredi, jour de dîner chez Madame Rabourdin que des Lupeaux avait laissée à minuit, éblouissante de beauté sur l'escalier des Bouffons donnant le bras à Madame de Caen, le vieux roué se réveilla ses idées de vengeance calmées ou plutôt rafraîchies. Il était plein du dernier regard échangé avec Madame Rabourdin. « Je m'assurerai Rabourdin en lui pardonnant d'abord et je le rattraperai plus tard. » Pour le moment, s'il n'avait pas sa place, il faudrait renoncer à une femme qui peut devenir un des plus précieux instruments d'une haute fortune politique. Elle comprend tout, ne recule devant aucune idée, et puis je ne saurai pas avant le ministre quel plan d'administration a conçu Rabourdin. Allons, cher des Lupeaux, il s'agit de tout vaincre pour votre Célestine. Vous avez eu beau faire la grimace, madame la comtesse, vous inviterez madame Rabourdin à votre première soirée intime. Des Lupeaux était un de ces hommes qui, pour satisfaire une passion, savent mettre leur vengeance dans un coin de leur cœur. Ainsi, son pari fut pris, il résolut de faire nommer Rabourdin. Je vous prouverai, cher chef, que je mérite une belle place dans votre bagne diplomatique, se dit-il en s'asseyant dans son cabinet et décachetant les journaux. Il savait trop bien à 5 heures ce que devait contenir la feuille ministérielle pour s'amuser à la lire. Mais il l'ouvrit pour regarder l'article de la Billardière en pensant à l'embarras dans lequel Dubruel l'avait mis en lui apportant la railleuse rédaction de Bissieu. Il ne put s'empêcher de rire en relisant la biographie de feu le comte de Fontaine, mort quelques mois auparavant, et qu'il avait réimprimé pour la Billardière, quand tout à coup ses yeux furent éblouis par le nom de Baudoyer. Il lut avec fureur le spécieux article qui engageait le ministère. Il sonna vivement et fit demander du toc pour l'envoyer au journal. Quel fut son étonnement en lisant la réponse de l'opposition, car par hasard ce fut la feuille libérale qui lui vint la première sous la main. La chose était sérieuse. Il connaissait cette partie et le maître qui brouillait ses cartes lui parut un grec de la première force. Disposer avec cette habileté de 2 journaux opposés à l'instant dans la même soirée et commencer le combat en devinant l'intention du ministre. Il reconnut la plume d'un rédacteur libéral de sa connaissance et se promit de le questionner le soir à l'opéra. Dutoc parut. « Lisez, lui dit des Lupeaux en lui tendant les 2 journaux et continuant à parcourir les autres feuilles, pour savoir si Baudoyer y avait remué quelque autre corde. Allez savoir qui s'est avisé de compromettre ainsi le ministère. » « Ce n'est toujours pas Monsieur Baudoyer, répondit Dutoc, il n'a pas quitté son bureau hier. Je n'ai pas besoin d'aller au journal, en y apportant votre article hier, j'ai vu l'abbé qui s'est présenté muni d'une lettre de la grande aumônerie et devant laquelle vous eussiez plié vous-même. Dutoc, vous en voulez à Monsieur Rabourdin et ce n'est pas bien, car il a 2 fois empêché votre destitution. Mais nous ne sommes pas les maîtres de nos sentiments, on peut haïr son bienfaiteur. » Seulement sachez que si vous vous permettez contre Rabourdin la moindre traîtrise avant que je vous ai donné le mot d'ordre, ce sera votre perte, vous me compterez comme votre ennemi. Quant au journal de mon ami, que la grande aumônerie lui prenne notre nombre d'abonnements si elle veut s'en servir exclusivement. Nous sommes à la fin de l'année, la question de l'abonnement sera bientôt discutée et nous nous entendrons. Quant à la place de la Billardière, il y a un moyen d'en finir, c'est d'y nommer aujourd'hui même. « Messieurs, dit Dutoc en rampant au bureau et en s'adressant à ses collègues, je ne sais pas si Bissieu a un don de lire dans l'avenir, mais si vous n'avez pas le journal ministériel, je vous engage à y étudier l'article Baudoyer, puis, comme M. Fleury a la feuille de l'opposition, vous pourrez y voir la réplique. » Certes, M. Rabourdin a du talent, mais un homme qui, par le temps qui court, donne aux églises des ostensoirs de 6 000 francs, a diablement de talent aussi. Bissieu entrant. « Que dites-vous de la première aux Corinthiens contenue dans notre journal religieux et de l'épître au ministre qui est dans le journal libéral ? Comment va M. Rabourdin, Dubruel ?» Dubruel arrivant. « Je ne sais pas. » Il emmène Bissieu dans son cabinet et lui dit à voix basse. « Mon cher, votre manière d'aider les gens ressemble aux façons du bourreau qui vous met les pieds sur les épaules pour vous plus promptement casser le cou. Vous m'avez fait avoir de Delupeau une chasse que la bêtise m'a méritée. » Il était joli l'article sur la Billardière. Je n'oublierai pas ce trait-là. La première phrase semblait dire au roi « il faut mourir ». Celle sur Quiberon signifiait clairement que le roi était un. Enfin, tout était ironique. Bissieu se mettant à rire. « Tiens, vous vous fâchez? On ne peut donc plus blaguer. » Dubruel. « Blaguez, blaguez. Quand vous voudrez être sous-chef, on vous répondra par des blagues, mon cher. » Bissieu d'un ton menaçant. « Sommes-nous fâchés ?» Dubruel. « Oui. » Bissieu d'un air sec. « Eh bien, tant pis pour vous. » Dubruel, songeur et inquiet. « Pardonneriez-vous cela, vous ?» Bissieu câlin. « À un ami, je crois bien. » On entend la voix de Fleury. « Voilà Fleury qui maudit Baudoyer, hein ? Est-ce bien joué ? Baudoyer aura la place. » Confidentiellement. « Après tout, tant mieux. » Dubruel suivait bien les conséquences. « Rabourdin serait un lâche de rester sous Baudoyer, il donnera sa démission, et ça nous fera 2 places. » Vous serez chef et vous me prendrez avec vous comme sous-chef. Nous ferons des vaudevilles ensemble et je vous piocherai la besogne au bureau. » Dubruel souriant. « Tiens, je ne songeais pas à cela. Pauvre Rabourdin, ça me ferait de la peine cependant. » Bissieu. « Ah, voilà comment vous l'aimez. » Changeant de ton. « Eh bien, je ne le plains pas non plus. Après tout, il est riche, sa femme donne des soirées et ne m'invite pas, moi qui vais partout. Allons, mon bon Dubruel, adieu sans rancune. » Il sort dans le bureau. « Adieu, messieurs. Ne vous disais-je pas hier qu'un homme qui n'avait que des vertus et du talent était toujours bien pauvre, même avec une jolie femme ?» Fleury. « Vous êtes riche, vous. » Bissiou, pas mal, cher Cincidatus, mais vous me donnerez à dîner au rocher de Cancale. Poiret, il m'est toujours impossible de comprendre le Bissiou. Félion, d'un air élégiaque. Monsieur Rabourdin lit si rarement les journaux qu'il serait peut-être utile de les lui porter en nous en privant momentanément. Fleury lui tend son journal, Vimeux celui du bureau. Il prend les journaux et sort. En ce moment, des Lupeaux qui descendaient pour déjeuner avec le ministre se demandaient si, avant d'employer la fine fleur de sa rouerie pour le mari, la prudence ne commandait pas de sonder le cœur de la femme afin de savoir s'il serait récompensé de son dévouement. Il se tâtait le peu de cœur qu'il avait lorsque, sur l'escalier, il rencontra son avoué qui lui dit en souriant « Deux mots, monseigneur, avec cette familiarité des gens qui se savent indispensables. » Quoi, mon cher Desroches, fit l'homme politique, que m'arrive-t-il? Ils se fâchent, ces messieurs, et ne savent pas faire comme moi, attendre? J'accours vous prévenir que toutes vos créances sont entre les mains des sieurs Gobseck et Gigonnet sous le nom d'un sieur Samanon, des hommes à qui j'ai fait gagner des sommes immenses. Écoutez, lui dit l'avoué à l'oreille, Gigonnet s'appelle Bidault. Il est l'oncle de Saillard, votre caissier, et Saillard est le beau-père d'un certain Baudoyer qui se croit des droits à la place vacante dans votre ministère. N'ai-je pas eu raison de vous prévenir? Merci, fit Deslupeaux en saluant l'avoué d'un air fin. D'un trait de plume, vous aurez quittance, dit Desroches en s'en allant. Voilà de ces sacrifices immenses, se dit Deslupeaux. Il est impossible d'en parler à une femme, pensa-t-il. Célestine vaut-elle la quittance de toutes mes dettes? J'irai la voir ce matin. Ainsi, la belle Madame Rabourdin allait être dans quelques heures l'arbitre des destinées de son mari sans qu'aucune puissance pût la prévenir de l'importance de ses réponses, sans qu'aucun signal l'avertît de composer son maintien et sa voix. Et par malheur, elle se croyait sûre du succès, elle ne savait pas Rabourdin miné de toutes parts par le travail sourd des tarés. « Eh bien, monseigneur, dit Deslupeaux en entrant dans le petit salon où l'on déjeunait, avez-vous lu les articles sur Baudoyer ?»« Pour l'amour de Dieu, mon cher, répondit le ministre, laissons les nominations dans ce moment-ci. On m'a cassé la tête hier de cet ostentoire. Pour sauver Rabourdin, il faudra faire de sa promotion une affaire de conseil, si je veux point avoir la main forcée. C'est à dégoûter des affaires. Pour garder Rabourdin, il nous faut avancer un certain Colville. » Voulez-vous me livrer la conduite de ce vaudeville et ne pas vous en occuper? Je vous égayerai tous les matins par le récit de la partie d'échecs que je jouerai contre la grande aumônerie, dit Deslupeaux. Eh bien, lui dit le ministre, faites le travail avec le chef du personnel. Savez-vous que rien n'est plus propre à frapper l'esprit du roi que les raisons contenues dans le journal de l'opposition? Menez donc un ministère avec des baudoyers. Un imbécile dévot, reprit Deslupeaux, et incapable comme... Comme la billardère, dit le ministre. La billardère avait au moins les manières du gentilhomme ordinaire de la chambre, reprit Deslupeaux. Madame, dit-il en s'adressant à la comtesse, il y a maintenant nécessité d'inviter Madame Rabourdin à votre première soirée intime. Je vous ferai observer qu'elle a pour amie Madame de Caen. Elles étaient ensemble hier aux Italiens et je l'ai connue à l'hôtel Firmiani. D'ailleurs, vous verrez si elle est de nature à compromettre un salon. Invitez Madame Rabourdin, ma chère, dit le ministre, et parlons d'autre chose. Célestine est donc dans mes griffes, dit Deslupeaux en remontant chez lui pour faire une toilette du matin.